Ah, des fermes.
Bah, des arbres.
Des fermes.
Et des arbres.
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Barthas 107.0.
Et bonjour, et nous sommes sur l'émission des fermes et des arbres. Bonjour Rachel.
Bonjour Nathalie.
Et aujourd'hui, en ce 21 mars, c'est jour du printemps, mais c'est aussi une journée très très importante pour nous.
Ah bon ?
Et oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des forêts.
Comment j'ai pu rater ça Nathalie ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut fêter les forêts aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons avoir un sujet un peu plus long sur la forêt aujourd'hui. Nous allons parler de pin sylvestre et de sa valorisation dans le PNR, donc le Parc Naturel Régional des Grands Causses. Et pour ça, j'ai interviewé Jérôme Bussière, chargé de mission forêt au parc.
Je suis avec Jérôme Bussière, chargé de mission forêt au Parc Naturel Régional de Millau. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Donc tu es chargé de mission forêt. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord le territoire d'un point de vue forestier ?
Ouais, le territoire du Parc Naturel Régional des Grands Causses fait à peu près 320 000 hectares. Il est couvert à 40% à peu près de forêt. Alors une forêt qui peut paraître assez monotone, principalement taillis de chênes et des accrues de pins sylvestres sur le Causse, sachant que le Parc Naturel Régional des Grands Causses, il englobe une partie des causses, notamment le Causse du Larzac et le Causse Noir, mais qu'une partie de son territoire n'est pas Causse. Et donc, sur les contreforts des monts de la Cône, sur une partie du massif du Lévézou, on a des boisements un petit peu différents, et notamment des plantations de résineux.
Quel type de résineux ?
Principalement Douglas, aussi des sapins épicéas, qui ont été plantés après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la politique du FFN.
Donc le Fonds forestier national.
Voilà.
Donc là, sur le parc naturel régional de Millau, là, il y a des grands causses, en fait, c'est pas de Millau, mais des grands causses. Il y a une charte forestière de territoire que tu animes. Est-ce que tu peux expliquer les actions qui sont incluses dans cette charte forestière ?
Alors, il y a une charte forestière depuis 2007. Avec un certain nombre d'actions qui concernent à la fois l'aspect plutôt milieu forestier en tant qu'espace et en tant qu'écosystème, donc avec des enjeux aussi de préservation de la biodiversité. Il y a des actions qui concernent la mobilisation des bois et des actions qui concernent plutôt la filière aval, c'est-à-dire à la fois le bois énergie ou le bois matériau. Parmi ces actions-là, le comité de pilotage avait fléché trois priorités. Une sur les forêts remarquables, une à l'interface entre la mobilisation de bois et les usages agricoles sur le sylvopastoralisme, et la troisième sur le bois énergie.
Et donc tu parles de forêt remarquable, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors la forêt remarquable, c'est la forêt qu'on remarque, entre guillemets, bien que l'action elle a été principalement centrée sur l'aspect biodiversité et nature, il y avait un volet qui concernait aussi l'aspect socio-culturel et l'appropriation d'une forêt ou d'un boisement en particulier par la population locale. Par exemple, Ça peut concerner aussi des forêts plantées, comme par exemple sur une des communes du parc, à l'époque, un instituteur qui, avec les enfants de son école, avait procédé à la plantation d'une parcelle qui est aujourd'hui devenue une forêt communale qui relève du régime forestier et donc gérée par l'ONF. c'était une plantation, mais elle avait son caractère remarquable, non pas par son aspect biodiversité, mais plus par son aspect historique.
D'accord. Parmi ces actions de la charte forestière, j'aimerais bien parler plus particulièrement d'une action qui concerne le pin sylvestre des Causses. Pourquoi travailler spécifiquement sur le pin sylvestre pour toi ?
Eh bien, sur les 40% de forêt qu'occupe le parc naturel régional des Grands Causses, en gros, il y a deux tiers, ce sont des feuillus. Les trois quarts sont des essences feuillues. Un quart des essences résineuses. Et dans ce quart-là, ben, il y a la moitié qui sont des résineux issus des plantations que j'ai évoquées, donc principalement du Douglas, sapin, épicéa. Et l'autre moitié de ces résineux sont des pins sylvestres qui, pour la plupart, sont venus spontanément reconquérir des espaces sur les Causses. Aujourd'hui, la politique de la charte forestière, c'est de préserver le milieu boisé, mais c'est aussi de mobiliser du bois. Valoriser le bois comme étant une ressource. Et aujourd'hui, sur les principaux débouchés et les principaux bois exploités sont les résineux, sauf le bois bûche, à peu près 80-90% des volumes de bois exploités sont des résineux qui proviennent des plantations. Donc si on veut mobiliser plus de bois, c'est pas sur les plantations qu'on a une grosse marge de manœuvre, c'est plutôt sur le pin sylvestre, notamment, avec un enjeu aussi de maîtriser son extension sur les parcours. Donc donner une valeur à ce bois-là qui fait qu'on va avoir une action de gestion et de contrôle de son extension. Donc on a beaucoup travaillé, un des objectifs de la charte forestière prioritaire, ça avait été le sylvopastoralisme. On a d'abord travaillé beaucoup sur les approches usage de ces boisements-là pour le troupeau, avec comme intérêt principal, c'est que l'arbre parasol permette une pousse peut-être moindre, mais en tout cas décalée de la ressource en herbe. Mais quand on envisage de faire passer un troupeau en sous-bois, en général, ben, il faut avoir une action sur les boisements, une action d'éclaircie, une action sur la gestion des rémanents, c'est-à-dire les branches qu'on laisse au sol. Il faut pouvoir laisser le passage pour le troupeau, donc ça a un coût. Et donc ce coût-là, c'est aussi la manière dont on va valoriser le bois qui sortira de la forêt. Donc l'idée était de trouver une valorisation pour ce bois-là. Le pin sylvestre, il a plutôt une mauvaise image sur le territoire. Alors c'est assez paradoxal, parce que dès qu'on coupe un arbre, en général, on s'alerte. Mais un pin sur Causse, il est en général pas forcément le bienvenu, puisqu'il concurrence la brebis. À contrario, on sait que le pin sylvestre a d'excellentes qualités techniques et qu'il est par ailleurs énormément utilisé en menuiserie pour fabriquer des huisseries ou même en construction, et que aujourd'hui en France il y a beaucoup le bois qu'on utilise est beaucoup du bois d'import. Et que parmi les bois d'import, il y a les bois du Nord, le sapin blanc et le sapin rouge. Et en fait, le sapin rouge, ce n'est rien d'autre que du pin sylvestre. Donc pourquoi pas essayer de valoriser les pins sylvestres locaux auprès des entreprises et du client, de l'usager final.
Et donc, pour valoriser ces pins sylvestres locaux, justement, tu es en train de monter un programme un peu global. ce qui concerne la sylviculture du pin sylvestre et la valorisation en aval, enfin, c'est-à-dire des projets concrets de valorisation du pin sylvestre local, par exemple sur du mobilier ou sur de la construction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la sylviculture de ce pin sylvestre, justement ?
Alors, la sylviculture, l'idée de travailler sur la sylviculture, ça va être d'offrir la possibilité aux propriétaires de boisements, qui sont, nous, sur le territoire du parc, souvent des agriculteurs. Sur l'ensemble du territoire du parc, 30% de la forêt appartiennent à des agriculteurs. De donner, je dirais, des fiches recettes. C'est-à-dire, je suis dans telle situation, a priori, mon boisement, il n'est pas forcément très joli, ou j'imagine pas quel débouché peut y avoir derrière. Quelles sont les recettes que je peux mettre en œuvre en termes de sylviculture pour rendre mes boisements plus attractifs pour une entreprise de travaux forestiers qui va venir l'exploiter. Donc ça, c'est la première entrée plutôt sur la sylviculture, sachant qu'il y a des territoires où on connaît assez bien la sylviculture du pin sylvestre. Sur le secteur de Causse, on n'est pas forcément habitué à une sylviculture du pin sylvestre. Et en plus, on se trouve sur des terrains qui ne sont pas forcément les plus faciles pour une croissance rapide, qui est la principale qualité du résineux en général, c'est cette croissance rapide. Sur Causse, au contraire, on a plutôt une croissance lente, mais ça en fait une autre qualité, ça fait une qualité technique plus intéressante. Donc c'est voilà, donner un petit peu des pistes des fiches de recettes, hein, parce que selon la situation, on est en pente, on est sur plateau, on est sur un sol maigre, on est plutôt dans une dépression où le sol est un peu plus riche. Voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire en tant que propriétaire forestier pour avoir des bois qui ont un avenir autre que du bois déchiqueté qui va alimenter les chaufferies bois. Voilà. Puis l'autre volet, c'est de, en même temps que de travailler là-dessus, c'est de dire, bah, OK, moi, je veux bien mettre en place une recette, mais ça va me donner quoi ? Donc, ça va être de démontrer, finalement, quel usage il peut y avoir à terme d'une sylviculture réussie. Qu'est-ce qu'on peut faire du pin sylvestre sur ce territoire-là ? Donc, l'idée, ça va être d'essayer de démontrer qu'il est possible de réaliser un mobilier de démonstration, par exemple, ou un aménagement intérieur d'un local qui accueille du public, de démontrer qu'on peut faire des choses avec du pin sylvestre. Et par exemple, aujourd'hui, on travaille au niveau du parc naturel régional sur le Larzac à essayer d'imaginer des abris de troupeaux construits avec les bois du Larzac. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, et on essaye de mettre le propriétaire qui fournit les bois, l'entreprise de travaux forestiers qui va exploiter, le scieur et le charpentier ou le constructeur qui va essayer de mettre en œuvre une solution adaptée à un abri éloigné du siège d'exploitation pour que l'agriculteur puisse y venir amener ses bêtes et qu'elles puissent trouver un abri en cas de mauvais temps. À l'origine, c'était imaginé comme ça, mais aujourd'hui aussi dans un cadre où de prédation sur les troupeaux. Donc de pouvoir construire voilà, un abri qui a été imaginé avec les socioprofessionnels en zootechnie, hein, d'imaginer un abri fonctionnel pour le troupeau. Et autour de ça, d'imaginer et les règles d'urbanisme pour le document d'urbanisme et la solution technique, architecturale qui convient.
Donc là, le pin sylvestre pourrait être une essence préconisée pour Donc ces voilà, abris de troupeaux.
Voilà, l'idée c'est d'y ajouter ce volet essence locale qui est prélevé directement sur les zones où pâturent les brebis.
D'accord. Je reviens un peu en arrière par rapport à tout à l'heure ce qu'on disait. Pourquoi aujourd'hui le pain sylvestre n'est pas utilisé par le pain sylvestre local n'est pas utilisé par les menuisiers par exemple et qui préfèrent importer du pain du Nord?
Alors les forestiers aiment à dire que finalement les arbres, ils les élèvent, hein, au même titre qu'un éleveur élève son cheptel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'arbre il soit contraint, c'est-à-dire qu'en général, il y a une densité qui fait que l'arbre va pousser droit, haut, avec peu de branches. Et c'est ça qui va intéresser... Le scieur et surtout la deuxième transformation, surtout le menuisier par exemple. Quand on fait une fenêtre, une huisserie en pin sylvestre, eh ben, il faut qu'il soit droit, il faut qu'il y ait peu de nœuds, il ne faut pas qu'il se déforme. Or, sur le territoire du parc, de manière générale, on a une forêt qui est plutôt jeune. C'est-à-dire que, en gros, la superficie a été multipliée par 2,5 entre le minimum forestier, c'est-à-dire la moitié du 19e siècle et aujourd'hui, en 160 ans, la superficie de la forêt a été multipliée par 2,5. Donc, et le pin est une essence pionnière, c'est-à-dire qu'elle arrive en premier. Et donc, en général, le premier pin qui arrive, ben, il pousse et il fait un maximum de branches et un maximum de fruits, de pommes de pin. Et c'est de là qu'il va essaimer. Et donc, c'est la deuxième génération qui va germer, qui va pousser serré et qui va avoir des conformités un petit peu plus...
attendues.
Plus attendues par rapport à la profession et à la filière. Malgré tout, après, il y a des actions de gestion sylvicole un peu habituelles, hein, qui sont des éclaircies, des dépressages qui consistent à petit à petit à desserrer les futurs troncs qui seront les mieux valorisés. Donc il y a une complémentarité entre un usage bois-énergie, où on va se servir de ces premières éclaircies à destination de chaufferie et un usage plus lointain de production d'un bois d'œuvre, bois matériau, qui sera mieux valorisé.
D'accord. Et donc ce dossier-là de travail sur le pin sylvestre, donc c'est en cours, c'est en début de parcours, je dirais. Combien de temps tu penses que ça va se mettre en place?
Alors, c'est vraiment un premier, je dirais, c'est la première marche hein, du travail qu'il y a à faire. Déjà, cette première marche est déjà assez... Enfin, ça sera une étape importante à franchir. C'est un projet sur 2-3 ans. Avec, j'espère, des suites dans une meilleure, je dirais... meilleur lien entre le propriétaire et le transformateur, entre le transformateur et l'usager final, le client qui utilisera du pain sylvestre pour, si c'est un particulier, sa maison, si une entreprise, son bâtiment d'entreprise ou un bâtiment agricole, ou si c'est... l'élu d'une commune, sa salle des fêtes ou un bâtiment qu'il a rénové. Donc ça serait peut-être à plus long terme. Dans un premier temps, on travaillera plutôt sur du mobilier de démonstration ou montrer que les choses sont possibles en pin sylvestre.
Ben, très bien, merci beaucoup. Rendez-vous alors dans 2-3 ans pour les premiers résultats.
Avec plaisir.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleurs d'horizon, y'a des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale et de guerre en maladie. Il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. De sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs. Son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre.
Et c'était Gaëlle Faye avec une chanson qui s'intitule Pili Pili sur un croissant au beurre. Après, la retransmission là, de l'entretien que Nathalie a eu sur le pain sylvestre, nous allons rapidement parler d'une formation qui a eu lieu à Florac le mardi 26 février 2019, à l'école de Florac, donc dans la cuisine de l'école primaire. Donc rappelons hein, que l'école primaire de Florac livre, et donc maternelle, livre également des repas pour l'école de Bédouès, Cocurès, de Vébron et aussi pour les personnes âgées à Florac. Cette formation était organisée par la communauté de communes Gorges-Cosséven, mais également la FR Civam Occitanie, qui a un bureau basé à Florac, donc avec une antenne Lozère, donc avec Alice Mull. On a eu un prestataire qui s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat. C'est un organisme en fait qui regroupe des cuisiniers formateurs, donc c'est des cuisiniers qui sont en poste, souvent donc déjà dans la restauration collective, qui interviennent sur d'autres territoires pour partager leur expérience sur les enjeux actuels de l'alimentation. On a eu la chance d'avoir un super formateur, Pierre-Yves Romé-Lareux, j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom de famille qui vient du nord de la France, qui en plus a créé une super page Facebook que je vous invite vraiment à aller la voir, c'est La Nouvelle Cantine. Il partage tout son travail sur l'introduction de produits bio et locaux. Donc je vous invite à aller voir cette page. On a fait une journée de formation avec une matinée, donc un début de matinée sur des échanges sur les réalités des cuisiniers qui étaient présents, avec après la préparation en fait d'un menu pour le midi, un vrai atelier culinaire. Donc alors là on s'est régalé parce que donc les cuisiniers présents, il y avait le cuisinier adjoint de l'école de Florac, le cuisinier du collège de Florac, les deux cuisinières d'Ispagnac et j'oublie, mais non c'est bon, c'est tout, voilà. On avait deux formateurs présents et donc l'atelier vraiment technique s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Alors au début, peut-être que les recettes ont fait un peu peur, mais après on s'est lancé. Donc la star de la recette, c'était alors la mousse au chocolat avec le jus de pois chiche pour faire les blancs en neige. Donc je sais que beaucoup de personnes pratiquent déjà cette recette, mais alors là, les cuisiniers étaient ravis. On a eu donc la mousse au chocolat, on a eu le gâteau chocolat azuki, donc avec des haricots azuki. Donc là, c'était super, c'était très gourmand, c'était vraiment super. Et donc un dalle de lentilles avec le riz demi-complet. Donc ça, c'est pour rappeler qu'on a quand même beaucoup travaillé sur les bienfaits des céréales semi-complètes, qui sont moins raffinées. En plus, ça permet pour les enfants vraiment d'avoir un tremplin, parce que passer au complet tout de suite, c'est pas forcément évident, même en cuisson pour les cuisiniers. Donc dalle de lentilles, riz semi-complet, une crème coco kiwi, très bon. Soupe de potimarron, là on est resté sur quelque chose d'assez standard, mais bon, ça nous a rappelé un peu la Lozère. Et après, un sauté d'agneau navet pois chiche. Donc l'agneau, c'était intéressant de l'utiliser parce que c'est quand même un produit typique de notre territoire. Donc on avait vraiment demandé aux formateurs d'utiliser de l'agneau. Pour le déjeuner, des élus du territoire nous ont rejoints, ce qui a permis vraiment de favoriser un échange sur pourquoi on était là, pourquoi il est nécessaire et essentiel aujourd'hui de travailler sur l'alimentation. L'après-midi, des échanges jusqu'à 16h30 sur comment faire évoluer les cuisines, comment faire évoluer les techniques de cuisson. On a trouvé que les cuisiniers étaient vraiment... En tout cas, très engagé dans la dynamique et très à l'écoute. La situation n'est pas forcément facile dans les cuisines. Et donc, du coup, on essaye vraiment d'engager un cheminement vers plus de produits locaux et plus de produits bio. C'était assez intéressant d'échanger avec eux sur cette thématique. Je rappelle qu'on a organisé cette formation dans le cadre d'un appel à projet de la DRAF qui ont participé financièrement, parce qu'effectivement, faire venir des formateurs, ça a un coût sur le territoire. Donc, ce type d'appel à projet qui sera sûrement remis en route l'année prochaine, j'appelle, s'il y a d'autres communautés de communes qui nous écoutent, peut-être, vous pouvez répondre à ces appels à projet. C'est un appel à projet très facile et ça permet de financer la venue d'un prestataire sur le territoire. Donc on espère qu'il va y avoir des suites. Mi-fin avril, nous organiserons aussi un plateau radio avec Radio Bartas spécifiquement sur cette thématique de l'approvisionnement et des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Donc on espère avoir plus de pistes et que les territoires sud-Lozère s'approprient cette thématique et continuent réellement à accompagner les cuisiniers et les collectivités vers, voilà, vers un approvisionnement plus local. On a quand même un territoire qui est très riche en produits agricoles, pas en tous, mais on peut déjà travailler avec les produits agricoles qui sont présents sur notre territoire. Vous avez peut-être vu plusieurs articles dans Lozère Nouvelle et Midi Libre, ça a eu un succès fou. J'ai aussi d'autres photos, si jamais voilà, ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, vous pouvez évidemment nous contacter à la communauté de communes. On espère, si on organise ça de nouveau, avoir plus de cuisiniers présents. C'est vrai que là, on n'en a eu pas forcément beaucoup, mais déjà, on était en période de grippe. Donc du coup, voilà, y a eu vraiment une période de grippe, on le sait. Donc beaucoup, voilà, il y a eu deux cuisiniers qui étaient malades. Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai moment de partage. Et on espère que voilà, ça se reproduira. Si jamais vous avez besoin de recettes, parce que là, les cuisiniers étaient très intéressés par les recettes, pareil, n'hésitez pas à nous demander des recettes et je vous invite vraiment à aller voir sur Facebook La Nouvelle Cantine. Et aussi, il a un mail, ce formateur, c'est lanouvellecantine@gmail.com. Et lui, il est vraiment il a des outils de ressources avec des nouvelles techniques, des nouvelles recettes. Donc, ne pas hésiter à faire appel à ce formateur. Voilà.
Eh bien, tu nous as donné faim, Rachel.
Mais oui, il est bientôt plus ou moins l'heure de manger.
Je sais. Normalement, ça passe à 13h l'émission.
Bah, bon
appétit.
Bon appétit. Merci.
Quand est-ce que tu nous fais cette mousse au chocolat?
Ah, peut-être bientôt. Peut-être pour la prochaine émission, on aura le droit à la mousse au chocolat.
Bon, ma fille, on l'attend avec Christophe.
Merci Nathalie, au revoir.
À bientôt.
C'était Défermer des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.